Affichez votre ambition. N'ayez pas peur, ni honte. La seule chose peut-être que je vous suggérerais, c'est d'éviter de vivre en permanence avec un ardent désir de réussite sociale, de richesse, de fortune, de gloire. Et puis peut-être aussi de vous garder de vivre en permanence avec l'idée de volonté de pouvoir.
On ne s'en lasse pas. Ce message aux jeunes diplômés d'HEC, cette mise en garde contre l'ardent désir de richesse, de fortune, de gloire, contre la volonté de pouvoir. C'est Jean-Dominique Senard qui parle. Il est patron de Michelin, il n'est pas encore président de Renault. Nous sommes en juin 2018, 5 mois avant que Carlos Ghosn ne se fasse cueillir dans son jet privé sur le tarmac d'un aéroport japonais. Jean-Dominique Senard, c'est l'homme qui a signé, par exemple, un rapport sur l'entreprise et l'intérêt général, pas l'entreprise et l'intérêt particulier. L'homme est raisonnable, mot-clé, affable, proche du pouvoir, tient différence aussi. Et sur le pouvoir, justement, la leçon a été comprise. Chez Renault, il ne sera pas PDG, il sera président, accompagné d'un directeur général. Bon, qui est Jean-Dominique Senard? On va pas s'en faire un manga. Sera-t-il l'homme de la situation? Voilà la vraie question. Il faut d'abord retrouver l'équilibre avec Nissan, ensuite valider une stratégie. L'industrie automobile, elle vit une révolution. La voiture électrique, la voiture autonome. On sait bien que des dizaines de milliers d'emplois vont disparaître. Peut-être même des constructeurs. Alors voilà, ça c'est sa mission. Et avec tout ça, on n'a pas encore parlé rémunération?
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est samedi, samedi économie. L'équipe vous salue, Coyenne Guyenne, le réalisateur, Valentin Pérez, l'attaché de production. Et avec nous à la technique, Antoine Teboul. Ce matin dans On n'arrête pas l'écho, une invitée exceptionnelle sur une radio française, c'est Melinda Gates, la coprésidente de la fondation Bill et Melinda Gates. Son regard son regard sur le fossé qui s'agrandit entre les riches et les pauvres. Est-ce que face à cet accroissement des inégalités, la philanthropie suffit? Faut-il taxer plus, par exemple, les ultra-riches? Eh bien, interview vers 9h45. Exceptionnel, vous l'êtes aussi, les débatteurs Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour.
Bonjour à tous.
Emmanuel Lechip de BFM Business, bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Une réaction, Christian, sur Carlos Ghosn, tiens, sur Renault, le changement de tête.
Vous parlez de rémunération, on a appris cette semaine qu'il devrait toucher à peu près 25 millions d'euros, dont 800 000 euros de retraite chapeau. C'est une question que j'aurais presque envie de poser à Madame Mavie au boulot, c'est est-ce que s'il se fait condamner, et s'il va en prison, est-ce qu'on garde tous ses droits, toutes ses clauses qui permettent de toucher autant d'argent, alors que quand même s'il est condamné, on aura montré que c'était un énorme escroc.
Emmanuel Lechip, vous cette affaire, ce changement de tête à la tête de Renault?
Si vous voulez, dans les grands patrons français qui sont tous issus du même moule, grandes écoles, grands corps, etc., vous avez quand même deux familles, il y a les flambeurs et les ascètes. Vous voyez, les flambeurs, c'est les Jean-Marie Messier, etc., il y a les ascètes, c'est plutôt les Sénards, les Gallois, c'est la revanche des ascètes sur les flambeurs. Est-ce que tous ne sont pas quand même représentatifs un petit peu des défauts de ce capitalisme à la française? C'est pas sûr.
Notre débat ce matin, nous allons parler argent. Nous allons parler de la disparition programmée du billet de 500 euros et surtout de celle potentielle de tous les billets et de toutes les pièces. Est-ce que notre argent liquide a de l'avenir? Voilà, c'est le débat et on se retrouve dans une poignée de secondes. Dans l'actu également, le chômage qui recule, mais qui reste massif. Et pourtant, il y a toujours des difficultés de recrutement. Comment comprendre ce phénomène? Vous entendrez le reportage d'Anaëlle Verzo. Et puis, Madame Vieux-Boulot, bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Alors ce matin, vous avez fait bureau de vérification de l'info sur une question, mais primordial.
Alors en fait, beaucoup de réactions après les propos de la ministre du Travail dans le magazine Challenge. Peut-on vraiment gagner plus au chômage qu'en travaillant?
On se retrouve pour la réponse juste avant 10h. Moi, je ne sais pas. Donc, je vous écouterai avec beaucoup d'attention. Tout de suite, nos espèces menacées. Faut-il croire à la cash disparition, la disparition du cash? C'est un débat qui aurait paru complètement délirant il y a encore quelques années. Alors, imaginez, il y a 40 ans. Je vous propose d'écouter ensemble un témoignage, une archive sur ce lien particulier avec nos billets. Et je vous donne un indice. L'homme interviewé est un philosophe.
Vous avez très souvent de grosses liasses sur vous. Pourquoi?
J'ai 1 million sur moi, là. On m'a souvent reproché d'avoir beaucoup d'argent sur moi. Mais
qui vous reproche ça?
Un castor, par exemple.
Parce qu'elle craint que vous le perdiez.
Puis elle trouve ridicule. Effectivement, c'est idiot.
Mais pourquoi alors cet argent sur vous?
Je pense qu'il y a l'idée un peu que j'ai le plus de choses sur moi me désignant pour ma vie entière. J'ai mon costume, Mes lunettes, c'est pareil. Mes cigarettes aussi. Et mon argent, ben, j'ai tout l'argent que j'ai pour le mois, par exemple.
Alors, est-ce que ce serait pas aussi pour ne pas avoir à demander quoi que ce soit à personne, pour avoir tout l'argent nécessaire pour faire ce que vous voulez, et donc éventuellement permettre un caprice?
Permettre un caprice, non, parce que je n'ai pas de caprice. Mais sûrement l'idée d'être indépendant, de ne rien demander à personne.
Bon, vous avez reconnu la voix?
De Jean-Paul Sartre.
Oui, de Jean-Paul Sartre. Le philosophe complètement accroît ses liasses de billets dans les poches de son costume. Il se balade quand même avec l'argent de tout le mois. Et Simone de Beauvoir, le castor, le lui reproche. C'était une interview pour le Nouvel Observateur au printemps 1975. Alors, avant de parler de la disparition possible du cash, juste un petit peu d'histoire, Christian Chavagneux. Les pièces et les billets.
Ah oui, ça carrément, fait combien de temps ? Vous voulez qu'on remonte à l'histoire.
C'est quoi,
ah
c'est
oui.
le 28 siècle ?
Écoutez, c'est le 6e siècle avant Jésus-Christ, et vous voulez qu'on parle de Crésus. Enfin, c'est plutôt son père qui s'appelle Aliates qui aurait a priori frappé les premières monnaies, c'est-à-dire pris un morceau de métal et puis mis son nom dessus en disant « Voyez, je vous garantis le pouvoir de ce bout de métal qui circule ». Après, nous, bah, les Gaulois, c'est plutôt 3e siècle avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que les gens faisaient des monnaies qui se ressemblaient toutes, mais chacun mettait pas le même poids d'argent, d'or, de cuivre. Du coup, il y a des changeurs qui sont assis sur des bancs, ça donnera la banque. Et le petit Jésus, quand il a grandi, il a chassé les changeurs du temple, hein, parce que les changeurs étaient rentrés dans les églises entre guillemets. Ça, c'est les pièces. Et puis les billets, c'est un peu plus tard, c'est les Chinois qui ont inventé, comme beaucoup de choses, bah les Chinois, là encore, c'est eux qui ont inventé les billets, plutôt 6e siècle après l'ère chrétienne. 9e siècle, on sait qu'il y a un empereur chinois qui a pris tout l'or, l'argent, et qui a donné des sortes de reçus, ce qu'on appelait des monnaies volantes. C'était déjà des billets de banque, mais le vrai billet, c'est-à-dire le morceau de papier sur lequel il y a pas d'or ou d'argent derrière qui gage la valeur, c'est vraiment un morceau de papier sur lequel il y a marqué, bah, c'est à nous de croire ce qu'il y a marqué dessus, c'est plutôt le 17e siècle. Donc ouais, c'est quand même une longue histoire.
Oui, et la monnaie, ça n'est pas que de l'argent, il y a un sentiment d'identité. Moi, je me souviens par exemple des débats au moment du passage à l'euro, bon, ça, on en parlait il y a quelques émissions, très fort sur le changement de monnaie, passer du franc à l'euro. Enfin ouais. Voilà, il y a un gros problème, une grosse question d'identité, hein, dans la monnaie. Emmanuel Le Chip, là, c'est le billet de 500 euros.
Ouais.
Je ne sais pas si vous avez des liasses, vous aussi, dans votre costume.
Mais je crois que j'en ai jamais eu entre les mains.
Moi non plus. De 500 euros. Moi non plus, Christian, vous en avez
eu. Non, pourtant, il y a 520 millions de coupures, hein, ah de billets de 500. Moi, j'en ai jamais vu.
Elles ont l'air d'être beaucoup en Allemagne.
Alors, ce qui est juste intéressant, c'est que.
Ça va être, alors, juste l'actu, c'est que, donc, à partir de ce
lundi,
week-end, de
ouais,
lundi,
absolument.
Les banques centrales cessent d'émettre, sauf deux, l'allemande ouais. et l'autrichienne, cessent d'émettre des billets de 500 euros. Mais vous alliez dire, Emmanuel.
Bah, oui, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand Christian dit le billet c'est le 17e, en fait le premier pays européen à avoir émis un billet, c'était la Banque de Suède en 1661. Et ce qui est amusant, c'est de voir que c'est aujourd'hui, c'est la Suède qui est aux avant-postes et qui s'interroge pour savoir si carrément il faut pas supprimer le cash. Alors là, la volonté de la Banque Centrale Européenne de supprimer les billets de 500 euros, je suis pas sûr qu'on aille sur cette vision aussi lointaine. Il y a
un ils y réfléchissent.
Il y a un intérêt assez concret à vouloir supprimer ces billets de 500 euros. D'abord, c'est parce que c'est des billets qui sont quand même les véhicules privilégiés des fraudes, des trafics. Vous savez que c'est un billet qu'on surnomme le Ben Laden. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que 1 million d'euros en billet de 500 tient dans une brique de lait. Vous voyez ? Et que donc c'est très facile.
Un peu plus, hein. Ça pèse 2 kilos.
Ouais, mais
2 kilos 2 exactement.
Ah, du lait très lourd là.
Oui, c'est en volume, ce que ça représente dans une valise, donc vous pouvez porter 2 kilos de billets. Donc voilà, donc il y a cette idée que c'est un billet dont on pense que l'usage est néfaste. Et vous avez raison, parce que l'aspect culturel est majeur, c'est-à-dire que cette suppression du billet de 500 euros, franchement, en Belgique, en France, ça suscite aucun débat. Alors qu'en Allemagne, par contre, ça suscite des débats considérables, parce que l'Allemagne est un pays dans lequel on utilise encore beaucoup le cash. Il y a des gens qui achètent leur voiture en cash. Les Allemands considèrent
alors que chez nous, depuis 2015, c'est ça, c'est limité à 1000 euros.
Ouais,
on peut rien acheter au-dessus de 1000 euros.
Exactement.
En
et donc les Allemands, ils sont très attachés à ça, sachant que ils ont un rapport particulier avec leur monnaie. Hein. C'est-à-dire que il faut rappeler que le mark allemand existait avant la République fédérale d'Allemagne. Donc c'est quand même assez unique, puisqu'il a été créé au moment du juste après la guerre par en partie les Américains. Et donc ils ont un attachement particulier. Et en plus, ils y voient. ils y voient, les Allemands, évidemment, une espèce de forme de répression financière de la Banque Centrale Européenne qui leur a déjà mis les taux d'intérêt à zéro, donc qui est déjà en train de spolier leur épargne et qui, en plus, va les empêcher d'utiliser le liquide comme ils veulent.
En même temps, on a depuis 2014, on a pu imprimer des billets de 500, hein, parce que les Européens, à part les Allemands, s'en servent pas. Mais c'est vrai qu'on a une enquête de la Banque Centrale Européenne qui a demandé aux gens combien vous avez de cash, combien vous avez de billets dans votre portefeuille. Et en moyenne, les Européens, ils ont plutôt 65 euros en portefeuille. Les Allemands, ils ont plus de 100 euros. Et nous, les Français, on a à peu près 30 euros. Et dans toutes les enquêtes, nous, les Français, on est parmi les Européens qui avons le moins de cash en portefeuille.
Est-ce que ça veut dire qu'on est plus pauvre, qu'on a un rapport différent? Est-ce que je sais pas?
On a juste un rapport différent.
Est-ce que vous croyez, on y arrive, est-ce que vous croyez à cette disparition du cash? Alors je crois que c'est le patron de la Deutsche Bank en 2016 qui nous prédisait que les billets allaient disparaître dès 2026, Emmanuel Lechypre.
C'est pas si évident que ça, parce que la tendance paradoxale aujourd'hui, c'est que évidemment on a une montée des transactions dématérialisées, mais qu'on n'a jamais eu autant de cash en circulation et qu'on en imprime tous les ans, toujours plus, et que si vous prenez la part du cash en proportion du PIB dans la plupart des grands pays, le cash augmente.
C'est encore
80% des transactions dans le commerce de détail, par exemple. Les grands chiffres donnés par tous les grands utilisateurs de banques, Mastercard, etc., vous disent qu'on est à peu près à 80%. Si vous prenez juste les derniers chiffres 2017, rien que pour la France, on a fabriqué 1,1 milliard de billets et 711 millions de pièces, en valeur, ça représente 8% de hausse par rapport à l'année précédente.
Mais c'est pas que pour nous, hein, parce qu'on produit des billets et des pièces
pour toute l'Europe. Effectivement. Ouais. Et en même temps, c'est vrai qu'on utilise de moins en moins de liquide, puisque les paiements par carte ont augmenté de 67% depuis 10 ans, alors que la consommation, elle, n'a augmenté que de 17%. En France. Et la question, c'est, du coup, où passe, effectivement?
Mais c'est complètement paradoxal.
Juste pour compléter les chiffres d'Emmanuel, au niveau mondial, la Banque des règlements internationaux, donc la Banque centrale des banques centrales vous a donné des chiffres, et entre 2000 et 2016, la valeur des paiements par carte est passée de l'équivalent de 13% du PIB mondial à 20%. Mais la valeur des paiements en espèces est passée de 7% à 9%. Donc les deux montent. Oui, la monnaie électronique monte, mais oui, le cash continue à monter partout dans le monde. Et quand la BRI dit « Ah bah évidemment, si je vous dis ça, vous allez me dire c'est dans les pays pauvres, les pays émergents, on continue à payer. » Pas du tout. La montée du cash, c'est depuis la crise de 2008, dans les pays riches, les gens en fait qui ont sorti l'argent de la banque pour le mettre sous leur matelas.
Il y a une énorme question de confiance. Hein.
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement... alors, c'est vrai que pour l'euro, c'est vrai que c'est une monnaie qui est de plus en plus utilisée dans le monde. Il y a quand même le très bas niveau des taux d'intérêt.
Un tiers de la demande d'euros en dehors de la zone euro.
Il y a le très bas niveau des taux d'intérêt qui fait quand même qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas très incité à aller placer votre argent et que vous pouvez très bien le garder chez vous sous forme de liquidité. Il y a la sécurité par rapport au paiement sur Internet qui est toujours un sujet, les Français ils sont quand même encore réticents par rapport à ça. Et puis il y a ce sujet qui est un sujet majeur dans la question du cash, c'est la confidentialité, la vie privée, la volonté de discrétion parce qu'il y a des transactions que vous souhaitez pas que elles soient connues par les gens. Et puis, il y a cette méfiance aussi qui ne se dément pas, qui est très marquée depuis la crise de 2008 où il y a une crainte de voir son épargne se volatiliser si la banque fait faillite, etc.
Attendez, il y en a qui sont beaucoup moins craintifs que tout ce que vous dites.
Oui.
Tiens, il y a les Suédois quand même. Les Suédois, alors Christian, on en parle
Mais les juste Suédois, à... attendez, ils sont non. en train de fabriquer et d'imprimer des nouveaux billets, pardon.
Alors, Christian, les Suédois, moi j'ai lu qu'un Suédois sur trois n'avait utiliser du cash que une fois par an ou deux fois par an ces dernières années.
En fait, il y a une enquête de la Banque de Suède qui est faite tous les deux ans et on a de la chance. La dernière, elle date de 2018 et les résultats, c'est fin 2018. Donc, on a vraiment les dernières infos. Le cash, c'est 15% des transactions quotidiennes quand vous allez au magasin, mais seulement du nombre de transactions, mais 1,5% de la valeur des transactions. C'est vraiment tout petit, hein, c'est vraiment tout petit. Nous, même les Français, on est quand même au-delà alors qu'on utilise peu le cash. Si vous demandez à un Suédois, votre dernier achat, vous l'avez fait comment? Il y a 12-13% qui disent avec du cash.
C'est très peu
et c'est pas... il y a les cartes, mais ils utilisent une application mobile qui a été développée par les 7 plus grandes banques suédoises qui s'appelle Swish. Et entre 2014 et 2018, la part de la population qui a utilisé cette application est passée de 14 à 60%.
C'est sur leur téléphone, vous savez
ça? C'est sur leur téléphone,
ouais,
exactement. C'est sur le mobile. Ils paient avec leur téléphone. 60% de la population a payé avec ça. C'est énorme. Et en même temps, si vous leur dites, dans le dernier mois, Dites-moi comment vous. Est-ce que vous avez déjà utilisé tel type et tel type de paiement? Là, il y en a quand même 6 sur 10 qui disent j'ai utilisé le cash. Donc le cash, c'est une petite partie, toute petite transaction de la valeur en général, mais continue quand même à l'utiliser les Suédois avec la Banque de Suède. Pas dans le dernier rapport, celui d'il y a 2 ans, qui disait attention, parce que si on se fait attaquer, s'il y a une panne d'électricité, on est vraiment très embêté, l'économie fonctionne plus.
Oui, c'est ça. Alors, donc la Suède, elle est pas loin de l'arrêt
du cash.
Elle est pas loin de l'arrêt du cash. Mais c'est une exception.
Il faut rappeler que c'est pas ceux qui sont le plus en pointe aujourd'hui sur tous ces nouveaux moyens de paiement, c'est quand même plutôt les pays asiatiques notamment que les pays européens. En Europe, il y a pas beaucoup, à part la Suède, il y a pas beaucoup d'exemples. Il y a les Pays-Bas. Si, il y a les Pays-Bas, par exemple, où effectivement, vous avez plein de supermarchés maintenant qui acceptent plus les espèces. C'est aussi légal. Il y a la Norvège aussi, effectivement. Mais vous avez des pays comme la Corée, par exemple, où maintenant, la monnaie, on vous la rend à travers une carte prépayée, par exemple. Et puis, il y a des pays où la Chine, par exemple, il y a des magasins qui ne prennent même plus la carte bancaire. C'est-à-dire la carte Visa, Mastercard, etc. Ils sont sur, ce que disait Christian, mais portable.
Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que ça doit nous faire rêver l'arrêt de la monnaie, l'arrêt des billets, des pièces, Christian ?
Non, moi ça me fait pas rêver. Il y a un journaliste financier allemand qui s'appelle Norbert Ehring qui a publié un petit papier dans lequel il dit attention, il y a 2 dérives quand même possibles. Les paiements en espèces, quand même, c'est le dernier truc avec lesquels on peut acheter quelque chose sans que les GAFA le sachent. Parce que tout est traqué, tout est disséqué.
Tous les porte-monnaies électroniques.
Tous les porte-monnaies électroniques sont disséqués pour essayer de nous refiler après des choses. Et là, et Amazon, ils sont pas fous, hein. Ils ont créé Amazon Go, une superette dans laquelle, une fois que vous êtes enregistré, les caméras vous géolocalisent et puis arrivent à voir ce que vous avez acheté. Et vous sortez du magasin, comme ça, bip, après vous recevez un SMS qui vous dit, voilà, vous avez dépensé tant, vous me devez tant. Et puis le deuxième truc, c'est...
Vous êtes enregistré. Vous êtes complètement
enregistré. Ouais. Il y a un truc qui s'appelle Better Than Cash Alliance. L'alliance pour, c'est mieux que le cash, et qui font la guerre au cash. Et ça, ce journaliste, il dit, mais il s'aperçoit qu'aux Philippines, au Mexique, dans plein de pays pauvres, en fait, il y a plein de gouvernements qui disent, on va mener la guerre au cash. Il dit, mais attendez, un pays pauvre, c'est pas le premier souci de savoir si on paye comme ci ou comme ça. Et en fait, c'est Mastercard, PayPal, JP Morgan, tous ces grands Visa, toutes ces grandes institutions d'intermédiaires financiers qui sont en train de mener la guerre au cash.
Pourquoi ?
Dans les pays du Sud pour récupérer tout le business. Alors on vous dit, au nom de l'inclusion financière, vous êtes dans un petit village de brousse, si vous avez votre portable, et tout le monde a un portable même dans les villages de brousse, vous pourrez toujours payer alors que vous n'avez pas de cash. Mais attention, pour ça, il faut un enregistrement biométrique des gens. Pour l'inclusion financière. De l'autre côté, toutes les listes électorales se font aussi par inclusion, par fichage biométrique. Vous vous retrouvez quand même avec des gouvernements, alors il ne faut pas être complotiste, mais qui vont avoir les fichages biométriques de toute leur population, pour des raisons de cash notamment. Ça fait un peu peur quand on voit que la Chine, ce qu'elle en fait, elle surveille les paiements de tout le monde, elle surveille tout ce que vous faites avec votre argent, elle vous donne une note pour savoir si vous êtes un bon citoyen, un mauvais citoyen. Quand même un peu peur, on perd un espace de liberté individuelle.
C'est ça, sans être complotiste quand même, on peut dire que c'est peut-être Tracfin qui rêve qu'il n'y ait plus de cash, comme ça il n'y aura plus de financement du terrorisme.
Oui, alors attendez, pour déplacer l'argent du terrorisme et de la fraude fiscale, il y a longtemps qu'il n'y a plus besoin de déplacer du cash. Ouais. Hein, vous déplacez juridiquement l'argent, pas physiquement.
Donc non, déjà l'argument est éculé, mais il y a ce danger. Il reste 30 secondes, Emmanuel.
Il y a cet aspect protection de la vie privée qui est absolument majeur. Moi, plutôt que la promesse d'inclusion, j'y vois une menace d'exclusion financière. C'est idiot, mais demain, comment vous faites pour donner une pièce dans la rue à un SDF? C'est ça. Alors on le paiera peut-être. C'est quand même un outil de violence sociale. C'est un outil de verrouillage de l'épargne aussi par le système bancaire, sans doute à travers finalement toutes ces données qu'on ne maîtrise pas.
Et ça leur coûterait moins cher.
Moi, je pense qu'il faut réfléchir à cette privation de liberté. Et je pense qu'on est victime d'une illusion, c'est-à-dire de confondre les innovations toutes bêtes de moyens de paiement. Alors oui, demain, on nous dit qu'on paiera peut-être en disant une phrase, un selfie, ou etc.
Faciale,
ça, c'est du gadget. Il faut pas confondre ça avec il faut pas confondre les nouvelles façons de payer avec les nouveaux moyens de paiement, les nouvelles monnaies. Et les nouvelles monnaies virtuelles, notamment Bitcoin, etc., qui nous entraînent sur d'autres sujets plus amples.
Emmanuel Le Chypre et Christian Chavagneux, les débatteurs du samedi. À venir, dans la prochaine demi-heure, l'interview de Melinda Gates, philanthrope et femme d'affaires. Mais avant, on reste dans l'actualité française. Nous sortons du studio. Est-ce que, Emmanuel, Christian, vous avez déjà participé à un job dating ?
On se trouve à l'intérieur d'une salle, à Pôle emploi. Il y a une quinzaine de personnes, que des femmes. Il y a l'employeur qui est là, recruteur, en face de ces femmes qui Ils sont là pour service à la personne.
Tout le monde est là ?
C'est un job comment dating.
Vous, madame, bonjour. Quel est le métier que vous souhaitez faire chez nous ?
Oui, moi, c'est dans le garde d'enfants.
Uniquement ?
Non, mais bon, ça peut s'élargir, ça dépend maintenant.
Ah, ça dépend de vous. Moi, j'ai les deux.
Ah bon, donc ce que vous avez vous proposé, je le ferai.
Très bien. Vous avez des questions ?
CDI, c'est un temps plein, transport.
Alors, CDI. CDI, c'est déjà un contrat à vie. Tant que vous faites des choses bien, pas vous lâcher.
Ok.
Maintenant, est-ce que c'est temps plein ou partiel ? Ça dépend de vos disponibilités. Si vous me dites, écoutez, moi je suis disponible de 9h à 15h, je vous dirai, ah, c'est pas quand vous dites, eh bien, écoutez, moi, de 8h à 19h, du matin au soir, je suis disponible avec plaisir. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. C'est le SMIC que vous avez.
Oui.
D'accord ? On a 2 mois, vous et moi, pour se dire, ok, ça me convient, ça ne me convient pas. Et c'est dans les deux sens. Si vous avez des demandes, on le fera immédiatement. Mais si moi j'ai des demandes, bah, je veux que ça soit bien réalisé également. Si je vous dis, bah, écoutez, pour Madame N, jeudi, et la gentillesse de commencer par les vitres et ensuite faire je ne sais pas quoi, et vous ne le faites pas, or, la première fois, je vous dirai gentiment, bah, je vous ai dit quand même, d'accord, mais si vous le faites à chaque fois, je vous dirai, il y a des choses peut-être qui ne vont pas. Vous voyez, tiens, c'est juste gagnant-gagnant. Alors maintenant, vous allez faire un petit test.
Je peux me mettre à côté de vous ? Cochez les bonnes affirmations. Avec quoi pouvez-vous nettoyer un écran de télé ou d'ordinateur ? Spray dépoussiérant pour mobilier ? Voilà, ce sont des questions comme ça auxquelles il faut répondre.
C'est pas si facile, hein ?
Ah, voilà.
Non, c'est bien, je pense que vous avez les bonnes réponses, j'ai l'impression.
Nous sommes à Paris, dans le 18e arrondissement, et c'est Pôle emploi qui a organisé le job dating, donc un rendez-vous en groupe entre l'employeur et des candidats. Cette entreprise de services à domicile a besoin de recruter, et ça n'est pas si facile. Dans les services, comme dans l'industrie, régulièrement, les patrons se plaignent de ne pas trouver les bras dont ils ont besoin, et évidemment, dans un pays touché par le chômage de masse, ça semble paradoxal. Alors que se passe-t-il ? On en parle beaucoup, mais quelle est l'ampleur réelle de ces difficultés de recrutement ? Est-ce que résoudre ce problème, ça ferait disparaître le chômage ? Voilà, beaucoup de questions pour notre reporter, Anaëlle Verzo. On retourne avec elle au job dating. Les candidates viennent d'enchaîner le QCM, le questionnaire à choix multiples, et puis un entretien.
Soria, vous venez de faire l'entretien, un premier entretien avec l'employeur. C'est la première fois que vous faites ça ou pas ?
Non, ce n'est pas la première fois. J'ai participé à plusieurs job dating. Celui-ci était quand même positif.
Et pourquoi vous faites ça, Soria ? Parce que vous avez un CAP petite enfance, donc vous êtes diplômée. Et malgré tout, vous êtes contrainte ou obligée de passer par ces job dating pour trouver un emploi ?
On n'a pas grand-chose en fait à me proposer. Actuellement, je suis au chômage. On va dire j'ai travaillé quand même depuis, hein, des petites missions, mais qui ne durent pas longtemps. La dernière fois, c'était au mois de janvier l'année dernière. Donc, ce que je recherche, c'est quelque chose de stable aujourd'hui, la CDI.
Et là, cette entreprise qui est ici, elle est là parce qu'apparemment, ils auraient des problèmes de recrutement.
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent. Les gens ne sont pas forcément au courant. Il faut juste passer l'information.
Et là, si on vous propose une famille avec 2 enfants, faire le ménage aussi en plus, et, mais par contre, géographiquement, un peu loin de chez vous, est-ce oui. que ça vous...
Non. Non, sincèrement, non. Parce que c'est un travail qui demande quand même beaucoup d'énergie. Voilà. J'aimerais pas faire beaucoup de transport non plus.
C'est quoi pour vous beaucoup de transport ?
1 heure, ça va, ça peut passer encore.
Une heure aller, 1 heure retour, ça vous irait ?
Ça peut aller encore, mais 2 heures, 2 heures et demie, non.
À 40 minutes de là, ça n'est malheureusement pas le profil de Soria que cherche Romain Leboeuf.
Est-ce qu'il vous faudra autre chose ?
Il est bouché, il n'arrive pas à recruter, comme de nombreux artisans.
On se trouve à l'intérieur de la boucherie Romain Leboeuf, dans le 15e arrondissement de Paris. Là, c'est une belle boucherie, hein. Il y a des trophées, là, des coupes, hein, en vrai, sur le côté. Là, vous avez eu des prix. Hein,
J'ai été plus jeune, meilleur apprenti de France. Champion d'Europe des jeunes bouchers et meilleur ouvrier de France en 2015.
Et Romain Leboeuf, vous avez du mal à recruter ?
Bah, disons que je cherche du monde et c'est, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais en fait je cherche même plusieurs personnes puisque j'aimerais idéalement avoir 2 apprentis, un CAP et un BP, un brevet professionnel. Et puis je cherche également un salarié. Bah donc en fait, vous voyez mon neveu, là, Jérôme.
Ah d'accord, qui voilà. Est derrière nous en train de travailler, là.
Exactement. Là-bas, Jérôme est pâtissier.
Ah d'accord.
Donc là, quand on commence à taper dans la famille, c'est qu'on est dans les dernières ressources, mais là, c'est la galère.
Et est-ce que vous avez mis une annonce sur Pôle emploi ? C'est un peu bête comme question, mais...
Non, c'est pas bête. Au début, je l'ai fait. Et très honnêtement, j'ai eu énormément de désillusions. Et puis,
ce que vous nous dites, c'est que du coup, il y a des personnes qui sont venues à vous, qui ont été envoyées, entre guillemets, par Pôle emploi, puis qui ne correspondaient pas
absolument.
Du tout.
Absolument. On a eu des erreurs de casting monumentales.
Et Romain, sans indiscrétion, vous cherchez quelqu'un pour un CDI, CDD
Du CDD, chez nous, il n'y en a pas, quasiment pas. Moi, je vais parler de mon expérience. Quand j'étais salarié, je n'ai jamais eu un CDD. J'ai eu que des CDI.
Et avec un salaire qui est de combien ?
Les salaires chez nous, c'est très variable. Alors, ça change énormément entre Paris et la province. Mais je vais vous parler du dernier ouvrier que moi j'ai eu qui prenait 3000 euros net.
C'est pas mal. Quels sont les freins, du coup, selon vous ? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à recruter ?
Forcément, chez moi, il y a un volume horaire qui est plus important. Au bas mot, chez nous, on fait une cinquantaine d'heures par semaine. On attaque sur le coup de 7 heures.
Et vous finissez à quelle heure ?
En général, on fait en sorte de finir au plus tard à 20 heures. Voilà.
Évidemment, vous travaillez le samedi puisque...
On travaille le samedi et pour mon cas, le dimanche matin.
Mais votre salarié, lui, travaillera
voilà,
pas le
lundi. Voilà, mon salarié, le dimanche après-midi, le lundi, puis une après-midi la semaine.
Pour expliquer ces difficultés de recrutement, il y a les conditions de travail, les horaires, le salaire, l'éloignement, et puis il y a les compétences. C'est particulièrement vrai dans l'industrie. À Saint-Nazaire, la terre des chantiers navals, on cherche à recruter 200 personnes en CDI, intérim ou en formation. Frédéric Gouraud est le directeur de l'agence Manpower à Saint-Nazaire.
Alors, c'est les deux secteurs sur lesquels il y a le plus de demandes, c'est l'activité aéronautique. Et puis autrement, on a des gros besoins sur le domaine de la navale, des postes de soudeur, des postes d'électricien, de menuisier.
Alors, comment est-ce que vous expliquez ces difficultés de recrutement ?
Depuis de nombreuses années, les jeunes se sont plutôt orientés vers des filières tertiaires et ont déserté la filière industrielle. L'autre raison, c'est que sur les années 2009-2010, on a connu une situation de crise. L'industrie était liée beaucoup à des logiques de plans sociaux. Et le fait que pendant quelques années, ces secteurs d'activité-là, on avait aussi moins d'activité, quoi. Puis là, j'ai échangé avec un client, il me disait clairement que quand il recrute actuellement, il recrute par rapport aux compétences du candidat et ce qu'il va apporter à l'entreprise, mais ils essayent aussi de se projeter sur comment il va évoluer sur 3 à 5 ans, quoi. Donc, on a des industriels qui sont en train d'anticiper aussi que les métiers qui existent maintenant, dans 5 ans et 10 ans, ils auront changé ou ils auront disparu, quoi.
Donc, il y a un vrai phénomène. Mais attention à ne pas lui donner trop d'importance. Éric Heyer est spécialiste du marché du travail à l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Aujourd'hui, si on a plus de difficultés à recruter d'un point de vue macroéconomique qu'en 2016, c'est parce que le marché du travail se porte mieux qu'en 2016. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de créations d'emplois et plus il y a des créations d'emplois, plus il est difficile de recruter. Mais attention à ne pas traduire cette difficulté de recrutement avec une impossibilité à recruter. En gros, recruter en basse conjoncture, vous mettez à peu près 3 semaines avant de recruter, alors qu'en haute conjoncture, ça met à peu près 3 à 4 mois pour recruter. Et c'est ça qui est un peu problématique, c'est qu'au contraire, c'est à ce moment-là où on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre et le recrutement devient de plus en plus difficile parce qu'il y a une concurrence dans le recrutement.
Si on donne quelques chiffres, il y aurait entre 200 000 et 300 000 emplois non pourvus.
Il y a effectivement aux alentours de 300 000 offres d'emploi non pourvues en France. Alors ça peut paraître beaucoup alors qu'on a un taux de chômage élevé, mais vous voyez, c'est complètement relatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de chômeurs. C'est pas ça qui réglerait complètement le problème du chômage. Et puis après, quand on rentre dans le détail de ces 300 000 offres d'emploi non pourvues, Pôle emploi nous dit qu'il y a 100 000 offres d'emploi, donc un tiers, qui en fait ne sont pas pourvues parce que le chef d'entreprise y a renoncé. Parce que dans un premier temps, il pensait gagner un appel d'offres et donc devoir recruter. Et puis finalement, il ne l'a pas gagné, cet appel d'offres. Et donc, du coup, il n'a plus besoin de recruter, mais il ne s'est pas déclaré à Pôle emploi. Et donc, elle reste non pourvue. Et donc, vous voyez qu'on passe de 300 000 à 200 000. Et puis après, sur ces 200 000, il y en a 40 000 où ce sont des offres d'emploi qui ne sont pas encore pourvues. Mais lorsque Pôle emploi questionne les chefs d'entreprise, ils nous disent que c'est en voie d'être pourvu et donc il faut juste un tout petit peu attendre. Et donc finalement, le problème se résorbe à 160 000 offres d'emploi non pourvues. Et sur ces 160 000 offres d'emploi non pourvues, il y en aurait 19 000, bon, quasiment 20 000, qui n'auraient reçu aucun candidat qui n'aurait répondu à cette offre. Donc oui, on peut considérer ça comme pas normal et on peut essayer de tenter de résoudre ce problème-là, mais en aucune manière, ça permettrait de résoudre le problème du chômage en France.
Si on résout le problème du recrutement, est-ce qu'on résout le problème du chômage ?
Alors non, 3 millions de chômeurs, si vous arrivez à créer 200 000 emplois, c'est bien. Mais considérer que c'est ça la problématique du chômage en France, c'est sans doute avoir une vision qui ne correspond qu'à 6% du problème.
En France, chômage de masse et difficultés de recrutement. C'était le reportage d'Anaël Verzon.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et que va-t-il se passer pour le chômage alors que la croissance ralentit ? Ça sera notre question de 2019. L'économie, elle va moins bien qu'il y a quelques mois. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour la planète entière. Et d'ailleurs, toute la semaine, ça a été un peu la toile de fond de Davos. Le sommet vient de s'achever. Je vous propose de partir en Suisse. On va faire le bilan.
We are here when the World Economic Forum has decided we're having globalization 4.0.
Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Delphine, vous avez donc été toute la semaine l'envoyée spéciale de France Inter à Davos, alors c'est l'heure du bilan. On a quand même le sentiment que même dans ces sommets suisses, le moral des élites économiques et politiques n'est plus vraiment au beau fixe.
Alors c'est vrai que l'ambiance est un peu moins euphorique que l'an passé et ce n'est pas uniquement à cause des températures polaires. À l'exception d'Angela Merkel, beaucoup de dirigeants politiques, c'est vrai, ont séché le rendez-vous. Pas de Donald Trump, ni même de délégation américaine. Il n'y avait pas de Russes, pas d'Emmanuel Macron, ni de Theresa May. On voyait les nuages venir et ils sont là. C'est la métaphore météo employée en début de semaine par la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, qui a revu à la baisse les perspectives de croissance en Chine, en Allemagne, mais aussi un peu en France avec les gilets jaunes. À Davos, on le sent, les patrons ne savent plus trop où investir. En Europe, il y a des incertitudes sur le Brexit. En Chine ou aux États-Unis, les tensions commerciales. Mais ça n'empêche pas les affaires. Les chefs d'entreprise ont payé très cher, vous savez, pour venir à Davos. Le ticket d'entrée est de 400 000 euros par an, sans compter le prix de la semaine. Alors, time is money, ils enchaînent les speed dating, rencontrent des dirigeants politiques, des clients, et dans les panels, on discute de la mondialisation 4.0. Ce mix, eh bien, c'est toute l'essence de Davos.
Delphine, donc, au final, que diriez-vous ? D'habitude, il y a toujours un message à Davos. Là, le message, il est en creux ?
Oui, la mondialisation n'est plus heureuse, on le sent bien, entre le Brexit, le mouvement des gilets jaunes. Et tout ça, ça coûte des points à la croissance. La chef économiste du FMI, une fois n'est pas coutume, s'est même permis de demander à la France de faire le nécessaire. Certains réclament un contrat social. La mondialisation à l'heure du numérique doit être plus inclusive, ne pas laisser le plus grand nombre de côté. Mais comment faire ? C'est toute la question. Alors cette semaine, c'est une jeune Suédoise de 16 ans qui finalement a été l'une des figures marquantes de ce Davos en demi-teinte. Alors que le climat était l'un des thèmes cette année à Davos, les patrons ont battu des records de jets privés. Greta Thunberg, c'est le nom de cette jeune Suédoise qui est venue en train de Stockholm, appelle les jeunes à se mettre en colère et l'élite économique mondiale à prendre enfin ses responsabilités face au réchauffement climatique.
Delphine Simon avec nous depuis Davos. Et puis, comme tous les ans, en amont de ce sommet qui réunit les riches et les puissants, l'ONG Oxfam a publié son rapport sur les inégalités mondiales. Alors, on peut discuter des chiffres, mais la tendance, elle reste claire. Les richesses de la planète se concentrent entre les mains de quelques milliardaires de plus en plus. L'homme le plus riche de la planète, c'est Jeff Bezos d'Amazon. Et le deuxième plus riche de la planète, c'est Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui est devenu philanthrope. Mais est-ce que face à ces inégalités, la philanthropie suffit ? Melinda Gates, sa femme, co-dirige leur puissante fondation, elle était à Paris cette semaine, invitée à Bercy pour parler du capitalisme au XXIe siècle. Alors très bien, parlons-en. Voici une interview exclusive pour On n'arrête pas l'écho. Bonjour Melinda Gates.
Bonjour, thanks for having me.
Merci de me recevoir.
Merci à vous d'accepter cette interview, thanks to you. Donc les dirigeants politiques, les patrons sont à Davos et vous êtes à Paris, Melinda Gates. Quel est l'enjeu ?
Oui, je tenais vraiment à venir ici, parce que la France va présider le G7, et j'applaudis l'initiative du ministre Bruno Le Maire qui souhaite une réflexion sur les inégalités au sein du G7. C'est aujourd'hui un débat incontournable, voilà pourquoi je voulais être à Paris.
Et les Gilets jaunes ne vous ont pas fait hésiter ?
Non, pas du tout.
Je crois qu'ils expriment un sentiment général qui monte à travers le monde,
en France, mais aussi partout en Afrique ou dans les métropoles d'Asie du Sud-Est. Les inégalités se creusent au niveau mondial, nous devons enrayer ce phénomène et le G7 a un rôle à jouer dans ce sens.
Alors justement, à Paris, vous venez discuter, par exemple, le besoin de financer le fonds pour combattre le sida, le paludisme, la tuberculose. Vous venez dire ça, en effet, au G7, aux pays occidentaux. Est-ce que ça n'est plus si évident ?
I think it is obvious.
Ça reste évident.
But I think sometimes when you get a rising inequality,
mais face à la montée des inégalités dans leur propre pays, il se peut que les gens soient tentés par le repli et oublient que c'est dans ces investissements font une différence. Alors oui, nous sommes ici pour parler du Fonds mondial, du fait que la France va veiller à son abondement dans le cadre du G7.
And it saved 27 million lives last 15
years. Et pour rappeler qu'en 15 ans, 27 millions de vies ont été sauvées grâce à ce fonds. J'en vois les retombées sur le terrain dans mes voyages. Et il faut bien comprendre qu'avec chaque euro investi dans ce fonds, nous œuvrons également pour la paix et la sécurité. Les gens n'ont pas envie de partir de chez eux. S'ils peuvent vivre correctement, si leurs enfants peuvent grandir en bonne santé, s'épanouir, réaliser leur potentiel et participer pleinement à la société ou à l'économie. Il faut rappeler à tous que c'est grâce à ces investissements que nous avons réussi à faire baisser la mortalité de façon notable ces 15 dernières années. Nous devons continuer. Donc vous diriez que ce sont des décisions économiquement rationnelles, que par exemple ça peut avoir un impact sur les migrations ?
Tout à fait.
Il s'agit de décisions très rationnelles sur le plan économique. Quand une crise majeure frappe leur pays, les gens émigrent, on le comprend. Mais dans leur grande majorité, ils veulent rester où ils sont. J'ai pu le constater lors de mes visites en Afrique. Quand vous demandez à une mère ou un père en Afrique quels sont leurs rêves, leurs espérances pour leur famille, ils parlent toujours de l'accès à l'éducation pour les enfants, afin qu'ils réalisent leur potentiel. L'ensemble du continent africain connaît actuellement une forte poussée démographique, ce qui peut représenter un énorme fardeau ou une chance extraordinaire. Et si nous investissons judicieusement dans la santé et l'éducation, si nous aidons ces jeunes à prospérer, à réussir, avec des outils comme les comptes bancaires électroniques, ils vont créer de tout nouveaux emplois dans leur propre économie et ils se feront une place dans leur pays. Vous avez mentionné plusieurs fois le problème des inégalités. Est-ce que pour vous, Melinda Gates, une des femmes les plus riches du monde, ce problème des inégalités est le problème numéro un sur la planète.
Absolument.
Et c'est pour cela que Bill et moi investissons autant de nos ressources, et à dire vrai, autant de temps et d'énergie aussi, dans la philanthropie. Je sais que le concept de philanthropie n'est pas aussi répandu en France, mais je vous assure que la philanthropie a un réel impact dans le monde. Elle ne pourra jamais se substituer à l'action publique, mais elle œuvre aux côtés des gouvernements en inventant de nouvelles façons de travailler, en innovant, en conduisant des recherches et en montrant ce qui peut marcher. Et non content de donner notre propre argent, nous avons demandé à d'autres milliardaires de nous rejoindre et de s'engager aussi. À ce jour, 187 milliardaires ont promis de faire don de la moitié de leur fortune, de leur vivant ou après leur mort. Et nous pensons que c'est très important et que cela participera à la réduction des inégalités. Mais est-ce que la philanthropie suffit ? Parce qu'après tout, vous dites, il y a 187 milliardaires qui ont accepté de donner la moitié de leur fortune, mais ça fait moins de 10% des milliardaires sur la planète.
En effet, la philanthropie à elle seule ne suffira jamais. Elle doit toujours s'exercer de concert avec les États, le secteur privé.
ainsi qu'avec la société civile et le secteur associatif, les ONG. Il faut réunir ces cinq forces. C'est comme ça qu'on fait avancer le monde, en réfléchissant ensemble pour trouver les meilleures idées et en réalisant des investissements qui permettront de lutter contre la pauvreté. Et en ce qui concerne le Fonds mondial que la France est prête à accueillir en marge du G7, oui, notre fondation va mettre la main à la poche, bien sûr. C'est une formidable initiative. Nous ne représentons que 5% du fonds. Ce sont les États qui investissent énormément et de plus en plus pour distribuer des moustiquaires, des antipaludéens ou des médicaments contre la tuberculose.
Votre fondation a été créée en l'an 2000. Vous avez dépensé à peu près 40 milliards d'euros. Quels résultats avez-vous obtenus ?
Les résultats, 400 millions d'enfants ont été vaccinés grâce à l'Alliance mondiale pour la vaccination que nous avons contribué à créer et que nous continuons de financer avec les États. 27 millions de vies ont été sauvées grâce au Fonds mondial dont nous comptions parmi les fondateurs, là encore, avec quelques gouvernements. Et nous participons ainsi à de multiples initiatives innovantes à travers le monde. Pour faire bouger les choses, pour essayer de vraiment faire baisser la mortalité, lutter contre les handicaps et faire reculer la pauvreté partout dans le monde.
Mais le problème, c'est que vous n'avez pas de... Les fondations philanthropiques n'ont pas de contre-pouvoir. Elles ne sont pas élues et pourtant elles ont un énorme pouvoir. Par exemple, la vôtre est pour les OGM.
Well, I think one of the things you...
Comme avec toutes les organisations caritatives, il faut savoir ce qui les motive, leur mission, et juger leurs actions sur le terrain. Je ne peux parler qu'au nom de notre fondation, pas pour les autres. Mais les grandes orientations ont été posées par les Nations Unies, avec d'abord les objectifs du millénaire pour le développement et maintenant les objectifs de développement durable, les ODD. C'est ce qui nous guide, notamment le troisième objectif, qui porte sur la réduction de la mortalité infantile et maternelle et des incapacités. Et c'est précisément à cela que s'attache notre fondation. Un autre domaine concerné, le changement climatique, sur lequel nous travaillons également. Et en effet, nous cherchons à adapter des semences, car cela nous aidera à faire face au réchauffement de la planète. Et surtout, nous rencontrons des paysans, et ils sont des millions comme eux, qui nous demandent si nous avons des semences qui résistent à la sécheresse ou aux nuisibles qui attaquent leur récolte. Par exemple, pour les cultures de manioc que l'on trouve partout en Afrique. Or, il existe une variété de semences qui permettra au manioc de mieux résister aux ravageurs. Nous estimons que c'est à ces pays de développer leur propre cadre réglementaire. C'est à eux de décider ce qu'ils veulent planter. Donc oui, nous mettons ces informations à leur disposition, mais c'est à eux de choisir. Ce n'est pas à une fondation de décider, ni à quelqu'un en Europe. Ils doivent choisir par eux-mêmes les semences qu'ils veulent cultiver.
Si on revient aux inégalités, bien sûr, vous êtes au courant de cette étude Oxfam sur la concentration des richesses dans les mains des millionnaires. Oxfam dit que les riches n'ont pas été assez taxés, ne sont plus assez taxés. Et c'est pour ça que les États ont des problèmes pour leurs dépenses publiques. Qu'en pensez-vous ?
I think it's up to every...
Il revient à chaque pays de définir sa politique fiscale. Mais de manière générale, Bill et moi sommes en faveur d'un impôt plus progressif pour les riches, y compris aux États-Unis. Je suis convaincue qu'une meilleure redistribution peut aider à réduire les inégalités. Et nous pensons que les très riches devraient reverser directement une partie de leur argent à la société. S'ils mobilisent toute leur intelligence, leur cœur et leur ingéniosité vers ce but, ils auront un formidable retour sur investissement. Et ils pourront changer le monde, pas uniquement dans leur entreprise et leur domaine, mais dans la sphère caritative.
Par exemple, aux États-Unis, Melinda Gates, vous avez cette démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, et elle veut taxer les... You smile.
Vous souriez.
Et elle veut taxer les plus riches jusqu'à 70%. Est-ce que c'est une bonne idée? Is that a good idea?
I... Mais
vous avez noté mon sourire en entendant son nom. J'ai souri parce qu'elle est jeune, qu'elle a des idées nouvelles, originales, et qu'elle se sert des réseaux sociaux pour donner aux jeunes le goût de la politique. Maintenant, est-ce que les mesures fiscales qu'elle préconise sont celles qui s'imposent aujourd'hui? Je dirais qu'il est trop tôt pour se prononcer. Mais je me réjouis de voir des idées neuves sur la table.
Merci Melinda Gates pour cette interview à France Inter.
Thanks for having me today.
Merci pour votre invitation.
Ma vie au boulot. On revient au chômage avec vous, Sandrine. Beaucoup de réactions d'auditeurs. En effet, après les propos de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, c'était dans le magazine Challenge. Alors la question est-ce qu'on peut vraiment gagner plus au chômage qu'en travaillant ?
Je rappelle l'exemple donné par Muriel Pénicaud dans Challenge et que le cabinet de la ministre nous a détaillé. Pendant un an, une personne travaille à mi-temps pour un salaire mensuel de 740 euros. Si elle alterne des contrats courts de 15 jours avec 15 jours de chômage, elle touchera 960 euros d'allocation chômage, alors que si elle fait ce même mi-temps mais en continu, elle ne percevra que la moitié, 480 euros. Bon, ce que ne précise pas le ministre, c'est que dans un cas, c'est 480 euros pour 12 mois de droit au chômage, et que dans l'autre, c'est 960 pour 6 mois de droit. Au final, en euros, ça revient au même, mais c'est vrai que la règle favorise le fractionnement des contrats courts plutôt que le travail en continu. Parce que l'UNEDIC calcule des droits au chômage sur une base journalière et non pas sur un salaire mensuel. Depuis 2017, les partenaires sociaux ont neutralisé cette inégalité pour les contrats inférieurs à une semaine. Mais effectivement, celui qui travaille par exemple 8 mois avec des CDD de 15 jours va toucher la même allocation que celui qui travaille 4 mois tous les jours. Ce sont sans doute des règles à changer, mais la dérive concerne des personnes qui enchaîneraient volontairement et au moins pendant 8 mois des CDD par pur calcul. Pour la grande majorité, les allocations chômage varient entre 57 et 75% du salaire journalier de référence et elles ne sont pas éternelles. Non, on n'est pas mieux au chômage qu'au travail.
Alors quand même, on précise, je vous pose cette question, dans certains cas, est-ce que les règles de cumul salaire-allocation ou les aides accordées aux demandeurs d'emploi, est-ce que dans certains cas, elles peuvent être un frein, on va dire ça comme ça, à la reprise d'emploi ?
Non plus, le cumul, c'est incitatif. Chaque fois qu'un chômeur reprend un petit boulot, il touche un salaire et une partie de ses allocations chômage. Le tout ne doit pas dépasser son ancien salaire. Un demandeur d'emploi qui travaille gagne en moyenne 10% de plus que s'il n'avait que ses allocations. Ce système de cumul a été conçu pour éviter une perte de revenus, mais surtout pour que chacun ait envie de reprendre le chemin du boulot. Et non, les demandeurs d'emploi n'ont pas plus d'aide que les autres. C'est même le contraire. Ils ne touchent évidemment pas la prime d'activité. Ils n'ont pas d'aide en fonction de leur situation familiale. Moins de la moitié des inscrits à Pôle emploi perçoivent une allocation chômage. Elle est globalement plus généreuse que dans les autres pays européens, mais nos voisins compensent par des allocations logement ou des réductions d'impôts spécifiques pour leurs chômeurs, ce qui n'est pas notre cas. Mais de toute façon, quel que soit le système, c'est une constante en Europe, le travail paye toujours plus que le chômage.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.